Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique, toujours en compagnie de Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Aujourd'hui, Nelly Lafont n'est pas là, elle est en train de tester l'acoustique d'église pour un autre projet. Nous avons avec nous Marion Lacombe, stagiaire au Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan, future guide conférencière. Bonjour Marion.
Bonjour.
Caro, tu nous emmènes où aujourd'hui ?
On vous amène dans une contre-vallée du Lot.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Un petit peu de route, pas trop, Caro, on est arrivé sur un village que tu connais bien, un peu venté aujourd'hui, on espère que ça ne va pas trop gêner pour l'enregistrement. On est à...
Aujourd'hui, on est à Alenc, un joli village qu'on va vous faire découvrir, et plus particulièrement son église Saint-Pierre.
Donc là, Caro, on est sur l'entrée du village, on est à l'entrée ouest, non ?
Oui, c'est ça, on est à l'entrée ouest d'Alenc, donc le village d'Alenc, mais on a traversé la commune depuis déjà un petit moment. On a traversé les Salelles, notamment, juste avant, qui fait partie de la commune d'Alenc. On est ici au croisement entre différentes entités paysagères. C'est un petit peu une contre-vallée du Lot, en quelque sorte. On est coincé entre, au nord, derrière nous, le plateau de la Margeride, la plaine de Montbel. Voilà. Et côté sud, ce grand cosse qu'on voit juste en face de nous, qui s'étend sur 7 km, qui est un cosse calcaire, et qui se prolonge par la suite par le Goulet. Et en prenant le Goulet, on rejoint directement Villefort. Ce Goulet est traversé par le GR7 du Tour de la Margeride. Et ici, on a une petite succession de petits cosses à environ 1000 mètres d'altitude, et qui donne une commune finalement assez éclatée. On voit les petits cosses là juste derrière nous où des petits hameaux sont implantés sur chacun d'eux. Et puis il y a le train, le fameux train slozérien qui a déjà fait l'objet d'une visite précédente.
Alors en effet, on s'est donné rendez-vous aux Trois Croix du Calvaire, c'est un sublime point de vue qu'il y a à l'entrée du village.
Voilà, donc comme tu viens de nous le dire, ce sont trois croix qui sont à cette entrée du village. Elles ont été posées quand, Caro ?
Ces croix, elles ont été posées d'abord sur le Couder. Qui est cet grand espace de prairie qu'on trouvait souvent sur les hameaux de montagne. Ça a une fonction un peu de vie commune, de vie sociale. C'est vraiment en continu même du village et c'est propice pour les événements, les foires, les fêtes et aussi les processions religieuses. D'où l'implantation ici de ce fameux calvaire avec trois croix. C'est vraiment l'élément identitaire du village avec le clocher de son église dont on parlera tout à l'heure. C'est un lieu de rencontre. Voilà, je vais laisser Marion nous décrire l'implantation de ces croix et leurs histoires.
Oui, c'est une signification d'avoir trois croix ou pas du tout ?
Ça représente le calvaire de Jésus-Christ, forcément. Donc on a une croix qui est plus haute que les deux autres, donc on est cette idée du mont Golgotha, voilà, qui en plus est orienté à l'ouest. Vraiment, au soleil couchant, on a ces trois croix qui viennent en contre-jour.
Alors oui, ces trois croix, elles ne sont pas très anciennes, hein, tout comme leur embarchement. En revanche, si vous êtes de passage ici, peut-être jetez un coup d'œil aux imposants socles de pierre qui les soutiennent. Eux datent du XVIe, voire du XVe siècle. Ils sont en calcaire et ils ont la particularité d'être un peu arrondis sur les bords, ce qu'on dit équarris pour les angles. Ils soutenaient à l'origine d'autres croix. Hein, et on suppose d'ailleurs que l'une de ces croix en pierre qu'il y avait autrefois se trouve toujours dans l'église où nous allons tout à l'heure.
Et on va voir tout le long de la traversée du village d'Alain qu'on a un très beau patrimoine rural, le patrimoine qu'on appelle vernaculaire. On va le voir quand on va traverser ensemble maintenant la rue qui mène à l'église. Donc on a le calcaire, on a tout le patrimoine, ferradou, des fours à pain dans la plupart des hameaux. Et on a également un grand patrimoine lié à l'eau, puisqu'on est ici dans une contre-vallée du Lot, comme je l'ai indiqué, avec plusieurs cours d'eau qui circulent dans la commune. Et on trouve énormément de moulins, de béales, qui montrent vraiment le passé céréalier de cette commune. C'est un patrimoine qui aujourd'hui disparaît un peu faute d'usage, et c'est d'ailleurs probablement en lien avec cette abondance de cours d'eau que vient le nom d'Alenque, qui remonterait à l'époque gallo-romaine.
Comme tu nous l'expliquais, le village est éclaté, il y a une explication à ça ou pas ?
Oui, alors le village, il s'implante sur ce territoire qu'on a dit qu'il y a des entités paysagères assez différentes. Le village d'Alenque est composé d'en réalité 13 hameaux. Il y en a qui sont sur des territoires calcaires, pour la plupart. Et ces petits cosses, du coup, sont les lieux d'implantation des hameaux, souvent liés à la présence d'une source.
C'est un village qui s'est construit au cours des siècles, de camp à camp à peu près.
Alors ce territoire, on sait qu'il était déjà occupé à l'époque gallo-romaine. Alenque bénéficiait d'une position stratégique, en fait. Elle se trouvait sur une importante voie de communication qui traversait le Lot vers Mende. Et cet axe de passage a perduré au cours du temps comme une grande voie de passage du Vivarais, de l'Ardèche même jusqu'à Mende. Et Alenque était aussi une seigneurie importante, à la frontière avec la puissante seigneurie du Tournel. Et la seigneurie d'Alenque va évoluer au cours des siècles, laissant se succéder de nombreux grands noms à sa tête, tels que les Abgés ou les Châteauneufs, siégeant tour à tour dans le château féodal d'Alenque, aujourd'hui disparu.
Tu viens nous parler un peu de cette époque du Moyen-Âge. Concrètement, le village aujourd'hui, comment on pourrait le définir ?
Alors oui, le village, plus concrètement, aujourd'hui, c'est le regroupement de trois hameaux : le Bourg, le Puèche et la Croix de Comte. Et la commune réunit à peu près 246 habitants répartis sur 13 hameaux et écarts. Et les écarts, en fait, c'est ces petits corps de ferme dispatchés dans le paysage. Et au niveau de sa localisation, on est à une dizaine de kilomètres de Mende, ici, entouré par quelques communes proches, celles de Chadonnay, Montbel et Pelouse.
Il y a beaucoup de routes pour venir à Alenque. Ouais, on peut passer par Mende, on peut continuer, on peut passer par le Blémard. À l'époque, c'était le cas aussi, non ? Il ne devait y avoir qu'une route transversale, j'imagine ?
Oui, donc cette fameuse route transversale, c'était la route du Vivarais qui a mené jusqu'à la Nuéjol. Voilà, on avait une traversée qui était... Là, aujourd'hui, on fait est-ouest. Mais il faut se dire qu'à l'époque, on avait quand même une traversée plutôt vers le sud, vers la Nuéjol.
Il y avait des mines à la Nuéjol, ici, avec quelque chose ?
Oui, alors ici, on a des mines... plus récente, sur le Mour d'Alenque, qui est cette fameuse montagne calcaire, ce petit cos juste au-dessus de nous. Il y a encore les traces des mines. Il y a également à Alenque, on en parlera tout à l'heure, une carrière de calcaire, pierre forcément de la commune. Ce qu'on te propose, Ludo, c'est de prendre la rue principale qui est sous cette petite crête du village d'Alenque pour aller jusqu'à l'église. Et on va traverser du coup l'ensemble du village d'Alenque qui est assez beau. On a un secteur à chaque des bâtiments de France, donc les bâtiments sont assez bien conservés.
Allez, allons-y.
Donc ici, on est dans la rue principale qui mène à l'église. Et on remarque que la commune d'Alenque a conservé un ensemble de petits patrimoines caractéristiques qu'on appelle vernaculaires, inhérents au territoire rural. Donc on a un ferradou, un abreuvoir, il y a une très belle fontaine à côté de nous, et le four à pain.
Il faut savoir qu'à Alenque, il y a une grosse fête chaque année autour des fours à pain, et la plupart des hameaux, donc les 13 hameaux dont on parlait tout à l'heure, ont conservé leurs fours à pain qui sont encore en état d'usage, et c'est l'occasion de faire la fête du pain, comme dans beaucoup de villages de Lozère.
Il a été restauré, ce four à pain ?
Oui, alors c'est vrai, comme on le disait, on voit bien cette belle perspective là, avec le four à pain, la fontaine. Ils ont fait l'objet de rénovations au fur et à mesure du village, notamment parce qu'on a un secteur archéique des bâtiments de France, donc tout ce patrimoine est vraiment préservé par la municipalité.
Donc là, on s'approche du four à pain, on va aller jusqu'à l'église. On voit la date 1899 qui est gravée au-dessus de la porte.
Oui, c'est un four à pain comme on a pu le voir au village des Salelles. En fait, c'est un four à pain dans lequel on a une pièce avant d'accéder au four.
Est-ce qu'il y a une bibliothèque à l'intérieur ?
Non, la bibliothèque, elle est juste à côté de l'église, justement, qui est la bibliothèque municipale et qui est très sympa, d'ailleurs.
Voilà, parce que pour rappel, au Salelles, on peut prendre des livres à l'intérieur du four à pain.
Oui, exactement. Et si tu vois juste à ta gauche, on a encore des devantures peintes d'un ancien café-restaurant. Voilà, ça fait partie du patrimoine, c'est une chose assez sympathique qu'il faut veiller à conserver.
Donc la fontaine qui a été construite presque en même temps, en 1898, un an plus tôt.
L'église d'Alenque a conservé tout son passé historique, on va dire, puisque l'enclos de l'église, autour on a le cimetière qui est encore accolé à l'église, et le presbytère à droite qui a été rénové justement pour la bibliothèque dont on te parlait tout à l'heure, et pour des logements.
Alors c'est une église qui figure parmi les plus belles églises romanes du Gévaudan. Elle est d'ailleurs classée au titre des monuments historiques depuis 1931. Et elle a des particularités notables, hein, donc qu'on peut déjà peut-être évoquer. Elle est la seule église du Gévaudan à avoir conservé les trois feuilles de son chevet. En effet, elle a un plan qu'on appelle tréflé. C'est assez rare et remarquablement bien visible ici. Et on en reparlera tout à l'heure quand nous serons dans le chœur. Elle partage d'ailleurs ce point commun avec deux autres églises romaines du Gévaudan, enfin de Lozère même, celle de Prévenchères et celle de Laval du Tarn. Alors ce qui frappe ici, outre cette façade monumentale, ce sont ses dimensions imposantes pour un si petit village. Mais malgré les nombreux remaniements qu'elle a subis, on peut aussi dire qu'elle a tout de même gardé une belle homogénéité. Au niveau de sa construction, cette église elle remonte assurément au XIIe siècle, tout comme celle de la Rouvière ou celle de Chadonnet. Elle est mentionnée, elle aussi, dans la fameuse bulle du pape Calixte II en 1123, confirmant sa possession aux chanoines. Et elle était donc la propriété du chapitre cathédral de Mende. Antérieurement, elle devait peut-être être un prieuré monastique.
Et du coup, là, on est vraiment au pied de ce clocher, qui est le symbole de la commune d'Alenque et aussi de son foyer rural. Alors, c'est la façade occidentale, hein, qui donne sur le côté ouest. Alors, c'est ce qu'on appelle un clocher-mur. On le trouve un petit peu en Lozère, mais ce n'est pas un dispositif très commun de façade. On voit donc ce grand mur assez aveugle, une petite rosace au milieu, mais quelque chose d'assez aveugle. Les pierres en calcaire sont taillées, on les voit. Hein, et en haut, on retrouve ce clocher peigne, où on trouve quatre emplacements pour les cloches et deux pour les cochetons au-dessus, donc six baies en tout. Alors, ce clocher, il a été beaucoup remanié, puisqu'il a été détruit en 1580 pendant les guerres de religion. Il y a eu des travaux de reconstruction en 1607 et 1610. Ils ont été assez bâclés. Et il y a eu un dénivelé de 50 cm. Enfin, c'est pas forcément très bien réalisé. Et c'est assez faux, voilà. Et par contre, le mur clocher en lui-même, il a été reconstruit en 1828.
Alors, en effet, il a été reconstruit, mais sur cette façade occidentale, on voit qu'il y a aussi un majestueux portail de style gothique qui lui est remontré du XVe siècle. Il a la forme ogivale typique du gothique. Et d'autre part, à côté de ce portail, on peut déceler sur les pierres des marques de tâcherons.
C'est quoi, Marion, des marques de tâcherons ?
Alors, ce sont des petites marques, on peut dire estampilles, inscrites dans la pierre. Elles sont le plus souvent dans un coin d'un bloc. Et nous en avons une manifeste à gauche, là, du portail gothique à hauteur d'homme, à peu près. Chaque symbole est unique et associé à un tâcheron, c'est le synonyme d'un ouvrier payé à la tâche en fait, et c'est un repère afin d'évaluer le travail de chaque tâcheron. Ces symboles peuvent aussi parfois être plus simplement des repères pour le placement des pierres lors de la construction. C'est assez rare d'en apercevoir par ici, on en retrouve également dans la cathédrale de Mende, notamment dans les clochers.
D'accord, donc là comme si on a un genre de V, un peu plus haut on a indice romain et quatre traits horizontaux et verticaux.
Et du coup, on va rentrer par ce magnifique portail dont nous a parlé Marion, qui a des petites colonnettes sculptées, avec le pied également sculpté. Donc, ils sont une assez belle entrée. Et on retrouve ici également les traces des tâcherons.
Je vous vois depuis là-haut, c'est beau d'être au-dessus. M'aider à lutter contre la gravité. Regarde par le hublot, c'est beau, je te vois bien plonger, tu sais, que je vole dans tes bras. Je pourrais bien tomber, tu pourrais oublier. Serait-ce la dernière fois que tu es près de moi, à m'aider à lutter contre la gravité.
Ça y est, on se trouve à l'intérieur de l'église, peut-être que vous l'entendez. D'ailleurs, on dit que cette église bénéficie d'une belle acoustique. Devant nous, l'église, elle suit un plan relativement simple. Hein. Devant nous, il y a une nef unique d'une dizaine de mètres, même un peu plus, qui débouche sur un splendide chœur tréflé.
C'est quoi un chœur tréflé ?
Alors, un chœur tréflé, c'est un chœur avec plusieurs lobes, comme un trèfle à quatre feuilles. Hein. Donc, on voit le trèfle central, hein, qui est donc du coup ce chœur. Qui est en cul de four, et les deux autres côtés du trèfle, qui sont les petites chapelles sur les côtés, enfin qui sont les chœurs, mais qui sont un petit peu comme des chapelles sur le côté.
Alors ce plan tréflé, certains écrits le font remonter d'inspiration antique, ce serait inspiré des bains romains, des bains antiques, pour la création des baptistères dans les premières époques chrétiennes.
Une église qui est très grande, surtout qu'on se retrouve dans ce petit village d'Alenque.
Alors c'est vrai que l'église d'Alenque est particulièrement grande au vu de la population qui l'entoure aujourd'hui, mais il faut bien s'imaginer qu'autrefois Alenque était un important lieu de passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment pour les fidèles en pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui passaient par ici. J'en profite pour faire une petite digression que je détiens de la gardienne de l'église. Il y a encore 50 ans, ici, chaque famille avait un banc qui lui était associé, donc une place que l'on payait même parfois. Donc c'est plus comme aujourd'hui, on peut s'asseoir librement pendant les offices religieux.
Une église qui est assez longue, pour arriver au cœur, il y a quoi, Caro, une vingtaine de mètres ?
Oui, c'est ça, on a une vingtaine de mètres. Si on s'avance un peu, donc on peut voir qu'on a quatre travées. Donc ici, on est dans la première. Donc on passe ici la première voûte cintrée, qui est un petit peu plus basse, avec au-dessus la tribune. Et ensuite, cette série de voûtes plein cintre, qui sont assez hautes, mais ça on en parlera tout à l'heure, hein, c'est dû à la modification qu'a connue l'église, et ces fameuses peintures murales dont Marion nous parlera tout à l'heure. C'est une église qui est dans les traditions romanes, hein, qu'on retrouve dans le Gévaudan. On avait parlé à l'église de la Rouvière notamment, et comme nous l'avons vu à l'église de la Rouvière, pardon. Donc on est dans une église qui a une tradition romane, comme la plupart des églises en Gévaudan. C'est à peu près ce qu'on a vu dans l'église de la Rouvière. Ça passe par la rareté de la sculpture. Hein. On a quelque chose qui est assez sobre dans son décor. Et on a, voilà, on peut lire ici quelques chapiteaux. Donc c'est là où on voit le remaniement successif de l'église. Sur notre gauche, tu peux voir qu'en dessous de la voûte peinte, il y a un chapiteau sculpté avec des animaux qui devaient reposer sur un pilier. Et on voit un petit peu plus bas que ce pilier a également été sculpté avec un petit liseré. Voilà. Et à l'inverse, côté droit, on retrouve un chapiteau qui est sans motif, voilà, qui lui est plus récent. Donc certainement, on a réutilisé un petit peu les pierres de l'église initiale. Je peux laisser Marion peut-être nous parler du coup de cette histoire de cette église qui a vécu pas mal de remaniements.
Alors oui, en effet, la construction de la nef a subi de nombreuses campagnes de reconstruction qui s'étendent du XIIe au XVe siècle. L'église d'Alenc, elle n'a pas échappé à la règle, hein, comme de nombreux édifices du Gévaudan, elle a subi des dommages pendant les guerres de religion. Il y a les troupes du capitaine Merle qui parcourent la région à la fin du XVIe siècle, et ces hommes détruisent et sèment la terreur sur leur passage. Là, je vous renvoie peut-être à de précédentes visites radiophoniques où c'était évoqué, notamment à La Rouvière ou à Mende, à la cathédrale, où vous évoquiez ces périodes sombres. On sait que ces mêmes troupes du capitaine Merle, elles occupaient le village d'Alenc quelques temps après avoir pris la ville de Mende en 1579. Et ça, on en a des précisions, on en a des écrits qui nous sont parvenus, en particulier sur l'ancien château, à propos de l'ancien château aujourd'hui disparu d'Alenc. Donc, ce même château a été pris par les Huguenots dans ces années-là, c'est le baron Apché. Le baron Apché était alors seigneur de Randon et a sapé le château, c'est-à-dire attaqué les fondations de sa muraille, pour le libérer des Huguenots. Et quelques années plus tard, on sait que le château a été ruiné en 1580, probablement intentionnellement pour éviter la reprise de la forteresse. Et le château est alors pillé et dépouillé de ses biens. Et c'est une chose assez étonnante qu'ici on a dans le village, on retrouve depuis ces temps-là, dans plusieurs maisons réparties dans le village, des pierres de taille de l'ancien château. Je vous dis tout ça, toujours est-il, parce que la même année, en 1580, l'église d'Alenc a vu s'effondrer une partie de son mur méridional, donc tout le côté gauche, à côté de nous, qui a entraîné dans sa chute la voûte de la nef. Et malheureusement aussi, à cette période, beaucoup d'objets religieux de grande valeur ont disparu.
Bah, du coup, cet effondrement du mur, on le voit tout à l'heure sur les chapiteaux. Hein. Un côté, donc le côté nord, on retrouve les chapiteaux sculptés. Juste au-dessus de la tribune, tu vois ici deux petites colonnes jumelées avec une petite figure humaine. Et de l'autre côté, bah, on trouve pas de colonne et justement un mur avec un beaucoup plus sobre décor. Donc on voit bien de ce côté-là que ce côté-là s'est effondré. De même, sur la dernière voûte, on voit bien une différence de hauteur entre les deux piliers, voilà, qui montre bien que tout ce côté droit est venu s'affaisser.
Oui, parce qu'en effet, comme les autres édifices du Gévaudan qui ont subi les dégradations de cette guerre, lors des reconstructions, on fait ça simplement et sans le raffinement initial.
Il y a beaucoup d'édifices qui sont désaxés comme ça suite aux reconstructions en Lozère ou ailleurs?
C'est désaxé visuellement, mais pas structurellement, quoi. Voilà. Mais ça arrive très souvent qu'on n'ait plus du tout de symétrie. On a le cas aussi à la cathédrale de Mende, on n'a plus forcément de symétrie entre un côté droit et un côté gauche en fonction des reconstructions.
Alors levons à présent un petit peu nos yeux, parce qu'on a la chance dans cette église de pouvoir admirer les vestiges de ce qui fut un remarquable décor peint. Ce sont des peintures murales du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pardon, plus exactement de 1721. On a une date, la date est encore lisible au-dessus, alors elle est apposée exactement dans le médaillon à la clé de la troisième travée.
On avait parlé des corps peints quand on était justement à la Rouvière, mais c'était très très répandu dans les églises romanes. Aujourd'hui, on a, dans les années 50, en fait, on a perdu cette tradition des décors peints et même des enduits sur les maisons de village. Et c'est vrai que la plupart de ces décors ont disparu. Mais quelques églises encore en Lozère les ont. Et donc on peut supposer que cette église était complètement peinte à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que n'oublions pas que nous sommes sur des pierres calcaires qui craignent un petit peu l'eau quand même. Et donc l'enduit, c'était aussi un signe de richesse quand on mettait un enduit sur une façade. Ici, le décor peint s'étend sur pratiquement toute la voûte en berceau de la nef. Et il devait certainement se prolonger autrefois au niveau du cœur. Mais par contre, là, ça a été décrouté récemment.
C'est quand même très bien conservé. Hein. Bon, il manque quelques couleurs. On est surtout sur des tons rouges et très, très peu de bleu. Mais on voit quand même les personnages qui sont très bien visibles.
Oui, le décor est très bien fait. On a un décor qui est assez fin. Et ça s'explique aussi parce que l'église n'a pas de gros dégâts structurels, pas de problème d'infiltration d'eau qui abîme les peintures.
On peut imaginer qu'il y avait des dessins aussi sur les murs ou uniquement au plafond ?
Partout. Il y a l'église, par exemple, la chapelle Saint-Saturnin à Bédouès, ou l'église des Salelles qu'on a visitée ensemble il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que toute l'église était complètement peinte.
Donc là, on peut quand même observer un personnage qui semblerait être Jésus. Également un autre personnage avec un ange qui tient un livre qui est en train d'écrire. On a la signification de cette fresque.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce beau décor peint, il représente le thème traditionnel du Christ en majesté, entouré des quatre évangélistes. Alors, ces quatre évangélistes, ils sont représentés accompagnés de leurs symboles, le lion de Marc, l'homme ailé de Matthieu, l'aigle de Jean et le taureau de Luc. Alors, ce dernier, Luc, est complètement effacé, malheureusement. C'est celui qui se trouve en haut à gauche. C'est ce qu'on appelle aussi le tétramorphe, lorsqu'il y a seulement les animaux qui leur correspondent. Les évangélistes sont ici montrés en train d'écrire, on les voit munis de plumes et de papier. Ils sont peints en fait dans leur fonction d'évangélistes, répandant les saintes paroles sur leurs écrits, par leurs écrits. Et leurs noms sont inscrits dans des quadrilobes de part et d'autre des évangélistes.
Ah oui, exact. Donc ce n'est pas du tout le Christ, c'était un évangéliste, pardon. Marion, pardon à nos auditeurs. C'est vrai qu'il y avait quand même une certaine ressemblance, Caro.
Oui, on pouvait s'y méprendre. C'est parce que tu ne viens pas assez à la messe, Ludo.
C'est ça. Je suis trop près le dimanche matin. Il y a une restauration qui a été faite sur ces peintures, Marion ?
Oui, ces peintures, elles ont été restaurées dans les années 80, 1987-1988. Ce qui a permis de ne pas les voir disparaître, mais n'en a pas pour autant redonné les couleurs d'origine. Le décor qu'on a au-dessus de nous, il a une couleur comme lavée par le temps. Il est assez fade, malheureusement. Il ne reste en grande partie seulement que la couleur dominante ocre-rouge, qui correspond en fait à la peinture préparatoire des peintures murales. Tout de même, on a une belle couleur qui subsiste dans les vêtements de l'évangéliste Jean, donc en haut à droite, qu'on a pris pour Jésus tout à l'heure.
Que j'ai pris pour Jésus tout à l'heure.
que tu as pris pour Jésus.
En tout cas, les dessins sont subtils, c'est raffiné quand même, c'est très fin.
Oui, c'est des peintures murales qui sont assez remarquables quand même.
On peut s'avancer, Ludo, si tu veux, pour aller plus vers le cœur.
Allez, allons vers le cœur. On arrive vers le chœur, justement je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'orgue, il y a un tout petit orgue qui est là. Quelle est cette particularité, Caro, que l'on voit, si tu peux nous la décrire et nous en parler ?
Oui, donc du coup c'est une remarquable chaire qui est toute assemblée en pierre et on voit ici un emmarchement en pierre dans lequel justement on retrouve un chapiteau assez ancien, sculpté, toujours avec cette personne ici. Et on retrouve ici une colonne qui maintient ce chair, qui, elle aussi, est une trace très ancienne de l'église. Et donc, cette disposition-là, c'est assez inédit en Gévaudan, et cela renforce l'idée que cette église d'Alenc avait une place très importante dans la société de l'époque.
Qui prenait place dans cette chaire ?
Donc, c'était la personne qui s'occupait de la cérémonie, hein, le prêtre, tout simplement. Qui venait
en hauteur
pour mieux diffuser le son. On voit que l'acoustique de l'église d'Alenc est assez intéressante. Je ne sais pas si vous l'entendez, les auditeurs, mais on a quand même une acoustique qui est très très intéressante. Donc là, Ludo, tu vois le fameux plan tréflé dont on parlait tout à l'heure, du chœur, et les absides et les absidioles qui sont elles aussi voûtées en cul de four, au même titre que le chœur.
Ah, et on retrouve la croix des calvaires dont on parlait tout à l'heure.
Et oui, cette fameuse croix qui était peut-être en pierre à l'origine et non en métal, on peut supposer que la croix qui est ici à gauche était justement dans le calvaire qu'on a vu juste avant.
En effet, cette croix, elle mérite un peu une attention particulière. C'est une croix qui est taillée finement. Elle est assez imposante, hein, et biface. En fait, d'un côté, elle va représenter le Christ en majesté et la Vierge à l'enfant de l'autre. Et au niveau du croisillon, on constate, outre les dégradations du temps malheureusement, quelques motifs floraux. On peut dire que c'est une croix floronnée. Et ces motifs sont un indice sur son époque. En fait, on peut la faire remonter au XVIe, voire au XVe siècle. Ce qui en fait un élément vraiment remarquable de l'Église. Et en effet, comme a dit Ludo, souvenez-vous, tout à l'heure au calvaire, eh ben, on suppose que cette croix faisait partie du calvaire de l'entrée du village d'Alenc.
Allez, on va ressortir de l'église. Et bien, quand on ressort, Marion, en face de nous, sur la droite, on voit une pierre tombale.
Alors, il est vrai qu'à l'entrée, à gauche du portail, se dresse une pierre tombale de grande taille, hein, environ 2 mètres. Elle est monumentale. Et elle présente une croix, en fait, qui tendrait à nous rappeler les croix celtiques. Elle nous interroge beaucoup sur ses origines, remontant à des temps anciens. C'est une croix qui a un anneau au centre, qu'on peut appeler aussi nimbe, et qui représente en fait l'hostie consacrée.
Caro, il y a une actu sur le village d'Alenc.
Alors plusieurs actus, on vient de voir ici que les rues ont été aménagées récemment par la municipalité. Également à Alenc, le festival du jeu, organisé par le foyer rural, du 11 au 13 juin, à Alenc même, donc profitez-en pour venir visiter ce joli petit village.
Il paraît que la crépière organise des visites.
Mais non, il n'y a plus de crépière cette année. Mais du coup, Marion, elle a d'autres actus, je crois.
Alors moi, je fais un petit peu de pub pour le Pays d'Arrêt d'Histoire, bien sûr. Alors sachez que comme l'église de la Rouvière ou d'autres, le Pays d'Arrêt d'Histoire peut proposer des visites guidées de ce lieu, selon la programmation et sur réservation. Et autre chose que je peux vous dire aussi, c'est qu'on n'est pas très loin du vallon du Villaret, ici, et qui va bientôt rouvrir pour l'été. Et ça, c'est un super truc à faire, quand même.
Le Villaret est l'un des fameux hameaux de la commune d'Arlègue, donc est quand même assez étendu. Hein.
Caro, on va rentrer à l'intérieur peut-être pour l'anecdote.
Ah bah oui, on te propose une petite anecdote pour briller en société. Viens avec nous. Donc on se dirige là dans la tour qui amène au clocher par une porte où on voit une jolie accolade gothique. Là. Rentre à l'intérieur.
Allez, on rentre. Je suis Marion.
Alors en effet, on t'a amené dans le petit escalier à colimaçon qui mène à la tourelle. Et sous l'escalier, on observe une...
une déesse de la fécondité, on peut l'appeler comme ça, hein, juste devant toi. Et donc il faut savoir que des femmes venaient ici pour toucher la déesse de la fécondité, afin de pouvoir procréer tout simplement. Donc c'est une petite pierre cachée derrière un escalier caché. Mais voilà, c'est une petite anecdote.
Ouais, c'est un personnage qui est fondu dans la pierre, qui fait une vingtaine de centimètres, 25 centimètres. C'est atypique, hein, on le voit ça souvent dans les églises.
Mais dans les églises du Moyen-Âge, on avait beaucoup de cultes aussi un petit peu païens, qu'on retrouvait dans les chapiteaux sculptés, etc. On trouvait souvent des personnes qui montraient leurs fesses, hein, c'était très courant dans les chapiteaux du Moyen-Âge. Et voilà, ça c'est certainement une pierre qui reste de chapiteaux, pourquoi pas. On pense que c'était pas sa place initiale ici en tout cas.
Par contre, on ne sait pas si ça marchait, si ça portait de la fécondité ou pas.
Alors, les habitants d'Alenc m'ont dit que oui.
Oui, c'est vrai que cette pierre devait se trouver ailleurs, mais on sait que les ouvriers au Moyen-Âge avaient beaucoup d'humour, donc ils ont dû prendre plaisir à la replacer là.
Merci beaucoup, Marion. Bonne chance, bonne suite dans tes études.
Merci beaucoup.
On valide Caro, elle pourra devenir guide conférencière.
Ah oui, validé.
Et donc, pour le mois prochain, on va retrouver Nelly et on va aller vers où, Caro ?
On va aller en haut des cimes.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.